Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, nous parlons aujourd'hui du droit d'ingérence humanitaire. De plus en plus, le gouvernement congolais déplore l'ingérence de certains pays étrangers dans les affaires intérieures de la République sous prétexte du droit d'ingérence humanitaire. Ce droit, d'après les spécialistes, prône la possibilité d'envoyer des secours humanitaires pour venir en aide à des populations victimes des catastrophes ou des violations des droits de l'homme. Alors, quelle dit la loi congolaise à ces sujets? Est-ce que la loi congolaise parle de ce droit d'ingérence humanitaire? Maître Ruffin Louko, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi les droits d'ingérence humanitaire?
Ah voilà, merci beaucoup. Là, nous sommes dans un domaine technique. Un domaine technique, ça veut dire qui demande à ce que nos auditeurs puissent prêter l'oreille deux fois, parce que ce n'est pas un domaine quelconque. Le droit d'ingérence humanitaire. Alors, partons du principe que les pays, les nations, dès qu'elles sont déclarées existence et reconnues par les autres nations du monde, sont, dans leur reconnaissance en tant que pays indépendants, sont donc souverains. Souverain signifie ces pays-là, avec sa population, son territoire et ses dirigeants politiques, sont souverains à décider de tout ce qui peut se passer sur leur sol, en bien ou en mal, souverainement. Ça veut dire, ils peuvent décider, par exemple...
Comme ils veulent. C'est ça la souveraineté.
C'est ça la souveraineté. Ils peuvent décider, par exemple, de brûler toute une forêt pour y mettre un stade. De brûler toute une savane pour y mettre, disons, une ferme. Brûler, c'est à mal. Mais souverainement, on estime que non, il faut une ferme à cet endroit-là. Tous les arbres qui sont là-bas et qu'on sort... On les défriche, n'est-ce pas?
Voilà.
On s'en débarrasse pour y mettre autre chose. Souverainement. Sans pression. Ça, c'est juste un exemple. Un pays peut décider souverainement que non, toute la jeunesse est incorporée dans l'armée pour faire face à tel défi. Souverainement. Ça, c'est la souveraineté de la nation. C'est ça le principe. Donc, notre pays, dès son accession, ou bien l'Afrique en général, dès son accession dans les années 60 à l'indépendance ou aux indépendances, eh bien, toutes, on parle en termes techniques, toutes ces nations africaines ont recouvré leur souveraineté internationale. Ça veut dire la possibilité pour ces pays de décider désormais
librement.
Ça, la métropole.
Voilà. De décider librement.
Librement. Comme nation. Nous formons telle catégorie de jeunes pour tel nombre d'années, souverainement. On peut décider par exemple que non, le niveau de diplôme, baccalauréat hier, est de 3 ans désormais, au lieu de 5, au lieu de 6 ou 5. On peut décider que la licence, comme dans d'autres pays, chez nous c'est 3 plus 2, ça fait 5 ans. Oui. On peut décider que désormais c'est 3 ans. Souverainement. Alors, ça c'est le principe.
Donc c'est cette liberté.
C'est cette liberté.
De décider.
De décider, ce qu'on appelle la libre disposition de nous-mêmes. De décider souverainement.
Sans contrainte.
Au travers nos frontières, de décider comme nous voulons de tout ce qui concerne la destinée de notre nation, notre peuple. Sans contrainte. Ça, c'est le principe. Et où est-il posé lorsque vous allez dans les statuts de l'Organisation des Unités Africaines de 1963, tel que modifié et complété, ou bien si nous pouvons dire, tel que adopté en 2000, lorsqu'on a changé la dénomination d'Union dit l'organisation de l'unité africaine à Union africaine, eh bien, on l'a adopté à 2000. Voici le principe que cela consacre. Parce que lorsqu'on parle de l'ingérence, et nous allons les définir pour nos auditeurs, lorsqu'on parle de l'ingérence, c'est donc la violation d'un principe. Et quel est ce principe? Nous sommes à l'article 4.
Qui est la déclaration
du statut de l'organisation de l'unité africaine telle que modifiée pour devenir Union africaine. Article 4. Principe. Qu'est-ce qui est à la base de cette organisation, quelles sont les règles qui nous régissent. Voici, ils appellent ça le principe qui régisse l'organisation. L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants. A, B, C, D, E, F, G. Alors, A, c'est égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l'Union. Égalité souveraine.
Et interdépendance.
Ça, c'est A.
Ça, c'est le point A.
Alors, le point qui nous intéresse, le point G. Principe, l'Union africaine fonctionne conformément au principe suivant. Point G. La non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre. La non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre. Ça, c'est l'Union africaine. Alors, lorsque vous allez dans les principes que dit la loi, d'abord, il faut dire à nos auditeurs que nos lois ne disent rien d'ici.
À propos du droit d'ingérence.
La Constitution dit tout simplement que tout ce qui se passe chez nous, c'est le peuple congolais qui est le seul souverain. Ça, c'est le principe posé par la Constitution. Le peuple souverain, chez nous, c'est le peuple souverain, c'est le peuple congolais. Celui qui a la souveraineté chez nous, celui qui décide, il envoie à Kinshasa telle personne, il envoie dans la capitale de la province telle personne pour faire tel devoir au nom de la population. Il envoie à la mairie telle personne. Donc, à tous les niveaux, c'est le peuple qui décide, c'est lui le souverain. Alors, la charte des Nations Unies, parce que ce sont les deux textes principaux, n'est-ce pas, qui posent la matière.
Le statut de l'Union africaine
de l'Union
et
africaine,
la charte
des Nations Unies. Alors, la charte des Nations Unies, nous sommes préambule, nous peuple, tout ça. Chapitre premier, bi et principe du charte des Nations Unies. Nous sommes à l'article 2, à l'article 2, au point 7. Voici. Le point 7 tel qu'il est présenté. L'Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article premier, doivent agir conformément aux principes suivants. Ça, c'est les statuts des Nations Unies. Aucune disposition de la présente charte, ça c'est le point 7, c'était donc un principe, aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la présente charte. Toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre 7. Ce principe de la non-ingérence par l'Organisation des Nations Unies et par aucun membre des Nations Unies dans les affaires intérieures d'un pays ne porte pas préjudice, n'est-ce pas, à l'application des mesures de coercition de ce qu'on appelle par tout le monde le fameux chapitre 7, c'est-à-dire qui permet au Conseil de sécurité
de prendre
la décision de coercition. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle, le chapitre 7 parle de quoi ? Parle de la menace de la paix. Le chapitre 7 est prévu à l'article 39, et voici ce qu'il dit. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir et établir la paix et la sécurité internationale.
Alors, maître, dans les deux documents que vous venez de lire, on parle nulle part du droit d'ingérence.
Alors, non, attends, maintenant, on y arrive. Ça, c'est donc le principe tel qu'il est posé par les textes internationaux auxquels nous sommes, c'est-à-dire, auxquels on a ratifié, pour lesquels nous sommes membres. L'Union africaine et les Nations Unies. Alors, que signifie droit d'ingérence humanitaire? Ça, c'est le principe, donc, qui a obligé tout le pays de rester chacun chez lui. N'est-ce pas? Même si vous avez des accréditations des ambassadeurs dans d'autres pays, mais les ambassadeurs s'occupent de sa propre boutique, la boutique qui concerne son pays. Les affaires d'un pays, et oh, le Parlement veut prendre de tels textes, ça ne vous
concerne pas.
Restez dans votre ambassade, point être. Protégez vos citoyens, vos intérêts, point être. Ça, c'était le principe. Alors, le droit d'ingérence humanitaire a commencé, notamment, dans le cas le plus récent, dans la crise de la fée en Somalie. Vous vous rappelez, lorsque les musiciens avaient chanté chez nous ici, Nzalana Somalie. Et Bernard Kouchner.
Bitumba, il est qui?
Alors, il y a eu un ministre de la Santé en France.
Bernard Kouchner.
Qui est parmi les ministres. D'abord, c'était ministre de la société civile, vous vous rappelez, c'était un socialiste, c'est vrai, mais il venait des autres. Il est le créateur d'ailleurs des Médecins sans frontières. Vous voyez?
Ouais.
Il était médecin, ministre de la Santé, il est parti en Somalie, vous vous rappelez encore de ces fameuses images des enfants affamés, oui. Des vieillards, des papas de 50 ans, 55 ans, 60 ans.
Qui meurent de faim,
kwashiorkor, tout ça. Les nations du monde ont alors inventé ce qu'on appelle les droits d'ingérence humanitaire. Contrairement à l'interdiction de s'ingérer dans les affaires d'une nation, depuis là est venu ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire. Lorsqu'un pays est incapable de venir aux besoins de sa population, besoins sanitaires, besoins alimentaires, besoin
de sécuritaire.
De sécuritaire, n'en parlons même pas. On a commencé par appeler ça droit d'ingérence humanitaire qui aujourd'hui s'est diversifié. Donc, ce n'est plus seulement humanitaire. Maintenant, on s'ingère même dans la gestion des finances. Même dans la gestion des écoles. Même dans la gestion des forces de sécurité.
Alors, vous dites que c'est Bernard Kouchner qui a inventé ces concepts, mais ça se retrouve quelque part dans les textes?
Ça se trouve dans la plupart des textes qui organisent les organisations internationales d'intervention, notamment l'Oxfam, l'UNICEF,
le
Caire International, PAM. Leur statut permet à ces organisations-là d'intervenir immédiatement. Alors, vous vous rappelez, lorsque il y a eu la crise qu'on appelle turquoise en 94. C'est-à-dire, les réfugiés, les génocides aériens au Rwanda en 94, toute la population rwandaise s'est déversée à l'est du Zaïre de l'époque, et la crise a été totale. La crise humanitaire a été totale. Et vous avez vu, le monde entier s'est déversé à l'est de notre pays, et les conséquences, nous les avons jusqu'aujourd'hui.
Et pour venir en aide à toutes ces
populations sinistrées, particulièrement étrangères venant du Rwanda, et de la population locale qui est victime de cet accueil. Et les droits d'ingérence humanitaire est devenu donc consacré définitivement. Et chaque fois qu'il y a un problème dans un pays qui menace la population dans son intégrité, dans sa paix, ou dans ses besoins sécuritaires, la communauté internationale ou certains pays estiment avoir le droit de s'ingérer sur base, n'est-ce pas, de tout cet extra. Ça devient aujourd'hui le principe. Ce qui fait que, vous vous rappelez, Artemis, c'est l'armée française qui est intervenue en Ituri. Je peux citer comme ça plusieurs. Vous vous rappelez, l'armée américaine est intervenue à Haïti pour changer même un chef d'État. C'est dans ce cadre-là d'ingérence, le droit d'ingérence, que toutes ces nations se permettent là. Vous vous rappelez la France?
Uniquement
vous vous rappelez
pour la France, des besoins humanitaires.
Le principe, au départ, c'est pour des besoins humanitaires.
Mais actuellement
vous vous rappelez, la France et la Grande-Bretagne sont intervenues en Libye pour changer le régime établi. Donc, nous sommes allés du droit d'ingérence humanitaire au droit d'ingérence tout court. Ça veut dire droit
dans tous les domaines.
Maintenant, ça devient dans tous les domaines. Et malheur aux pays faibles. Donc, tant que vous...
Est-ce qu'on peut dire par là qu'il y a une violation de ce droit? Parce que on va au-delà de ce qui a
Dans la situation actuelle, je me demande que signifie encore la souveraineté des États. Tous les chercheurs dans ces domaines s'interrogent à quoi sert la souveraineté encore. Par exemple, notre pays.
D'accord, maître Ruffin, on va accueillir les auditeurs qui attendent. Je reviens à vous tout à l'heure. Droit d'ingérence humanitaire, on en parle aujourd'hui avec maître Ruffin Louco, juriste et chercheur et écrivain en droit. Vous voulez participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, Téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix. Vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Droit d'ingérence humanitaire. Maître Gentil Moulumba était Kinshasa. Symphorien Bidoya nous appelle des Kananga. Nous saluons tous ses auditeurs. Maître Gentil, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est votre question?
Merci beaucoup, Jody, pour la parole. Merci aussi pour la thématique d'aujourd'hui. Je salue Maître Griffin. Les principes tels qu'ils sont posés par la Charte des Nations Unies ainsi que l'acte constitutif de l'Union africaine sont clairs, notamment le principe de l'égalité souveraine ainsi que les principes de l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Mais au-delà de ces principes, Jody, nous aimerions juste essayer d'apporter aussi des tempéraments. C'est comme nous sommes en train de parler aujourd'hui du principe d'ingérence humanitaire. Ce principe est aussi corroboré par un autre principe ou un sous-principe qui est appelé le principe d'humanité. Que veut dire ce principe? Ce principe trouve son pesant d'or lorsque, des fois comme dans notre pays, la République démocratique du Congo, certains droits de l'homme, bien entendu, sont vraiment, disons, piétinés ou enfreints par les dirigeants.
Maître Gentil, soyez bref. Quelle est la question que vous adressez à Maître Ruffin? Soyez bref et direct.
Je n'ai pas une question comme telle, mais tout simplement, je voudrais aussi éclairer la religion et la lanterne de notre population qui écoute cette émission. En fait, lorsque l'État arrive à enfreindre certains droits que l'on appelle les jus cogens, les droits intangibles du peuple, eh bien, un État tiers peut intervenir dans cet État-là pour contrer l'État hôte de ne pas vraiment violer les droits qui sont intangibles de son État. C'est le cas notamment de les cas des États-Unis qui ont intervenu en Irak, vous vous en souvenez.
Alors, est-ce que c'est codifié quelque part dans quel document? On vient de lire la Charte des Nations Unies, on vient de lire aussi l'acte constitutif de l'Union africaine. Nulle part on les dit ainsi.
Voilà. Bien sûr, Diony, lorsque les États s'étaient retrouvés pour rédiger ces deux actes-là, évidemment, ils n'avaient pas prévu cela. D'accord. Mais au fur et à mesure que les Nations Unies ont vu certaines violations massives des droits de l'homme perpétrées par certains États, sur leur peuple évidemment, c'est comme ça que les États se sont retrouvés pour évidemment, dans certaines résolutions, prendre certaines dispositions, notamment les droits pour les Nations Unies ou pour un État tiers d'intervenir dans les affaires intérieures lorsqu'on se rend compte qu'il y a des violations intempestives des droits de l'homme.
Merci Maître Gentil pour cette intervention. Nous avons également en ligne Symphorien Bidoya. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour aussi à Maître Riffin et à tous les auditeurs. J'ai une telle question. Vous voyez, par exemple, dans notre pays, la RDC, nous recourons beaucoup aux pays européens, américains, par exemple, quand il s'agit de soutenir des campagnes de vaccination, par exemple, dernièrement contre la rougeole. Bon, quand on les fait comme ça, bon, quand nous recourons à ces pays-là, ils nous donnent des moyens. Et en revanche, ces pays-là doivent nous dominer. Quand est-ce qu'on peut parler de l'ingérence? Quand les pays-là doivent maintenant aussi intervenir, par exemple, dans les affaires politiques. Quand ils nous donnent des moyens financiers, là, on ne parle pas de l'ingérence, mais quand ils veulent aussi intervenir, quand il y a une erreur dans les pays, on parle maintenant de l'ingérence. Je veux que l'invité puisse m'éclaircir un peu par rapport à ça. Merci.
Merci, Symphorien. Tabin Kamanda nous a écrit depuis Kisangani. Il dit, quand notre gouvernement laisse les ONG et les organisations étrangères mener toutes les activités jusqu'au niveau périphérique, les zones de santé, cela ne remet pas en cause notre souveraineté, Maître Ruffin.
Alors, commencez par lui, lui. Alors, je vais lui rappeler le principe, c'est que toute convention ratifiée limite une partie de notre souveraineté et permet une marge d'intervention ou d'ingérence. Chaque convention qui que nous ratifions limite une partie de notre souveraineté.
Nous cédons une partie de notre souveraineté.
Pour toute convention.
Oui.
Que ça soit de l'OIT, que ça soit des sanitaires, que ça soit sur le plan de l'éducation,
environnement,
que oui. ça soit pour la coopération des services de sécurité ou formation. Financièrement, limite une partie de notre souveraineté et autorise une partie au droit d'ingérence humanitaire, financière et consort. Donc, dans tous les cas où nous nous trouvons face à une ONG internationale ou à une organisation sous-régionale ou une organisation internationale tout court, eh bien, nous signons avec des conventions. Nous les autorisons à s'ingérer dans nos affaires. Nous limitons notre souveraineté. L'auditeur Tabin de Kisangani, Kamanda, qui dit que... Et ça a commencé depuis longtemps, depuis même avant Turquoise. Vous arriverez là des endroits, notre pays, l'État n'existe pas, ce sont les ONG qui... Vous vous rappelez, il y avait une émission ici où on disait les gens allaient déposer des plaintes pour voler à la Monisco ou à Nitouri. À la Monisco, à l'époque. Les choses ont changé depuis parce que la police n'y était pas à l'époque. Par cause de l'insécurité, de les guerres qu'il y avait là-bas. Donc, c'était un scandale d'apprendre que des plaintes sont déposées auprès d'une organisation internationale, plutôt que ça soit déposé devant notre police. Parce que dans ces endroits-là, ce sont les ONG qui font leur loi, l'État n'y est pas.
Pas de cours
et tribunaux. Vous voyez que ce genre de questions viennent de nos populations qui sont au fin fond des provinces où on voit l'État rarement. Vous arrivez dans des endroits où on vous dit que non, le gouverneur y arrive après 50 ans. Aucun gouverneur n'est jamais passé là-bas. Gouverner la province, pas le gouverneur général qui était à Léopoldville. Gouverner la province. Donc pour te dire que non, l'absence de l'occupation nationale de l'autorité, comme on dit, l'autorité de l'État, permet à certaines ONG d'intervenir même sans passer par la capitale, donc pas sans passer par les institutions nationales.
Oui.
Ils interviennent directement en province, localement, et ils n'ont rien à foutre avec les institutions
mais
nationales.
Mais qu'est-ce que la Constitution de la République dit à propos
du
droit d'ingérence humanitaire?
La Constitution considère que celle souveraine, c'est la population. Et c'est lui qui est chargé de protéger et notre territoire et nos institutions. Tant politique, sociale et socio-économique, c'est notre armée et notre police. Nous, donc chaque pays se dote d'une force pour se protéger, pour protéger ses frontières, pour protéger ses institutions. Si vous n'avez pas une armée, vous êtes donc perméable. Conséquence, par exemple, personne ne pense que le fait d'avoir la communauté internationale en permanence chez nous est un grand défi pour tout politicien de ce pays, de l'avoir depuis 60, partir à 64, 65, revenir à 94, presque jusqu'aujourd'hui.
Alors,
ça veut dire tout simplement que cet état des choses...
Oui, on va accueillir Adonis de Calémy. Bonjour,
Adonis. On n'avait pas encore répondu à votre question.
Je sais, bien sûr. Adonis, vous êtes à Calémy. Bonjour, et quelle est votre question? Adonis?
Oui, bonjour, monsieur. Donc, je vous rappelle que je vous appelle à partir de Colouésie.
Vous êtes plutôt à Colouésie. Quelle est votre question, Adonis?
Voilà, donc, par rapport au sujet que vous êtes en train de débattre, moi, ma préoccupation, donc, de savoir, vous êtes en train de parler du droit d'ingérence humanitaire.
Oui.
Voilà, donc, ce droit permet à différents organismes, donc, internationaux, de venir en aide aux nations qui sont en détresse. Maintenant, moi, je voudrais comparer un peu ce droit par rapport aux phénomènes qui sont en train de se passer dans ce pays qui est, bien sûr, la République démocratique du Congo. Il y a presque deux semaines, nous avions appris par la voix des ondes que ce pays est un État souverain. Les grandes décisions doivent se prendre par le Congolais. Donc, la population congolaise, c'est elle qui a tout le monopole de ces succès, des décisions pour des décisions qui vont aider ce pays à aller de l'avant. Là, moi, je voudrais un peu comparer par rapport au droit d'ingérence humanitaire, qui est aujourd'hui multisectoriel. Avant, c'était humanitaire, mais aujourd'hui, ce droit se veut ce monopole de venir dans des nations qui ont des problèmes, par exemple, des problèmes de sécurité, donc le problème des guerres. Mais il y a des organismes qui peuvent venir en aide dans ce sens-là. Voilà. Mais là, par rapport à la souveraineté d'une nation.
Oui, quelle est la question? Passez directement à la question parce que les autres attendent. Adonis, bref. Quelle est la question?
Donc, par rapport à ce droit, donc ce droit d'ingérence, ça ne bafoue pas un tout petit peu la souveraineté d'une nation. Par exemple, donc pour le cas qui est en train d'intéresser notre pays.
D'accord, merci beaucoup.
Oui. Il ne faut pas oublier la souveraineté d'une nation.
D'accord.
C'est ça un peu ma question, monsieur Zia.
Merci. Maître Kadé Akamba de Kinshasa, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur Jeudi. Bonjour. Écoutez, moi je crois que comme c'est un sujet très technique, il faut que les choses soient dites avec beaucoup de précision, hein. Parce que les questions que vous avez posées ont été trop précises. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en droit international un droit d'ingérence? Je réponds non. Parce que quand vous avez posé la question, où est-ce que c'est écrit quelque part qu'un État a un droit d'ingérence? Je crois que le confrère Ruffin doit dire les choses telles qu'elles doivent se présenter. Il n'existe pas aujourd'hui un droit inscrit quelque part qu'on appellerait un droit d'ingérence. Ce dont il parle, on appelle ça en droit international des interventions d'humanité. C'est pas un droit. Les droits, c'est la faculté que vous avez d'utiliser quelque chose quand vous en avez besoin. Mmh. Aujourd'hui, le principe qui régit les nations, c'est le principe de la souveraineté des États. Et nous, en tant que peuple africain, on doit s'atteler à ça. Parce qu'il n'y a pas un principe écrit quelque part qui donne à un État puissant, soit-il, le droit d'intervenir dans un autre État. Donc ça est très, très, très important. Il n'existe pas un droit d'ingérence. Il existe la possibilité de ce qu'on appelle les interventions d'humanité qui sont faites par les organisations, ce qu'on appelle les ONG internationales, c'est-à-dire les Oxfam dont il a parlé, la Croix-Rouge, avec un mandat des États. Mais sur le plan international, il n'y a pas un droit d'ingérence.
Ça, d'accord. C'est
De deux.
Oui.
La grande problématique, c'est que les souverainetés de certains États, comme les États faibles, comme les nôtres, posent problème. Parce que quand on dit qu'un État est souverain, il a des attributs, c'est-à-dire des compétences qui sont liées à sa souveraineté. Lorsqu'un État, par exemple, comme les nôtres, ne peut pas organiser par lui-même les élections, un des attributs, ça veut dire quand vous dites que vous êtes souverain, vous devez vous défendre avec votre armée, vous devez organiser vos élections avec votre argent. Quand un État comme le nôtre, par exemple, demande de l'argent pour qu'il puisse organiser ses élections. C'est cet État qui lui-même est en train de perdre une partie de sa souveraineté.
D'accord, merci beaucoup. Merci Maître Kadé pour ces interventions. Maître Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Alors d'abord, on commence par Kadé qui est le dernier, donc c'est pas qui est encore le plus chaud dans son intervention. Merci Kadé pour la question.
Maître Kadé Kamba.
Mais voilà. Alors, existe-t-il? Nous avons lu les statuts. Nous avons lu les statuts des Nations Unies, la CNU, l'Union africaine. Le principe, c'est la non-ingérence. Dans les statuts, c'est consacré. Et nous avons dit que non, il y a eu ce qu'on a commencé à appeler les droits d'ingérence humanitaire. Et aujourd'hui, devenu droit d'ingérence tout court. Au départ, c'était un droit d'ingérence humanitaire. Mais rappelez-vous que le Conseil de sécurité, au chapitre 7, de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour protéger le maintien de la paix qui est menacée ou dans le rétablissement de la paix d'Oyariptir. Ça, c'est le chapitre 7. Le prévoyant, déjà là, nous sommes en 1948. Si vous voulez que je réponde, existait-il un droit d'ingérence? Il existe. Posé par la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire, à l'article 2.7 que nous avons lu et où il est posé le principe de la non-ingérence, ce même texte prévoit un bémol, ça veut dire l'exception à renvoyer au chapitre 7 que le Conseil de sécurité, lui, peut prendre des mesures à l'endroit de toute nation lorsqu'il constate qu'il y a menace de rupture de la paix. Ou, n'est-ce pas,
les populations civiles sont menacées.
Sont menacées. Et non, c'est ça la rupture. La rupture d'une manière ou d'une autre. Donc s'il y a menace de génocide, comme ça s'est passé par exemple à Beni, s'il y a menace de génocide comme il y a eu génocide au Rwanda ou au Burundi, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures. Ça, c'est donc prévu.
Kabé, ces droits existent. Hélas, ces droits existent. Alors, en ce qui concerne
le chapitre 7,
c'est le chapitre 7 du statut des Nations Unies. Ça existe. Mmh. Ces droits existent. C'est vrai. Les nations n'ont pas le droit d'intervenir. Ça, c'est vrai. Dans les affaires intérieures d'une autre nation. Mais depuis l'histoire, donc, depuis l'histoire des nations internationales.
Alors, si je comprends bien, si une nation, un pays doit intervenir dans un autre pays, il doit avoir le mandat
du conseil de sécurité. C'est pourquoi vous voyez la France pour aller au Mali, pour aller en Centrafrique, il va d'abord à New York obtenir l'autorisation du conseil. Et c'est ça l'esprit du statut des Nations Unies. L'autorisation, l'aval des Nations Unies pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Cameroun, pour aller au Mali, pour aller au Tchad, pour aller en Centrafrique actuellement. Il faut l'aval des Nations Unies. Là, vous êtes couvert par ce qu'on appelle les instruments internationaux. Mais si vous allez, n'est-ce pas, si vous allez de vous-même, c'est l'alignement comme les nations. Les États-Unis sont allés par eux-mêmes en Irak. Vous vous rappelez de l'épisode George Bush,
sans
l'autorisation des Nations Unies, vous voyez comment la France s'y était opposée. La conséquence, c'est l'alignement jusqu'à aujourd'hui. Les Nations Unies, les États-Unis avaient encore fait la même chose. Ils sont partis en Somalie par eux-mêmes. Nous savons la suite. La Somalie n'est plus revenue un État. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des années non entayées. À 2006, à 2016, il n'y a plus d'État là-bas. Non, lorsque vous y allez de part, vos forces, vous violez la souveraineté de cette nation-là.
Là, c'est pas
et
bon.
Vous violez la charte des Nations Unies, la charte de l'Union africaine, c'est à vos risques et périls parce que les peuples locaux résisteront. Mm. Parce que la souveraineté qui, le souverain primaire qui est la population résiste. Mais lorsque maintenant vous signez des accords, vous demandez chaque jour de l'argent.
Est-ce que Symphorien a dit?
Alors, chaque jour vous demandez de l'argent. Oh non, la santé. Oh les écoles.
Les élections.
Oh non, les élections. Plus vous demandez de l'argent, plus vous autorisez.
Et il semble
autorisez
que même une grande partie du budget national et financier, par
hélas, ça fait plus de 7 ans. Ça fait plus de 7 ans. D'abord, je peux préciser déjà l'époque où ça remonte. Nous sommes juste après Laurent Désiré Kabila, jusqu'à nos jours, presque. Notre budget national est financé à plus de 50% par la communauté internationale.
Et là, ça réduit immédiatement la souveraineté.
Plus nous donnons, comme le disait un footballeur, hein, Mbongo Mouké, Balé Mouké. Mbongo est belé, Ingérence est belé. Plus nous demandons l'argent, plus on va s'ingérer chez nous. Plus ils donnent de l'argent, plus ils vont s'ingérer. C'est une loi naturelle. C'est une petite conséquence, toute naturelle. C'est-à-dire, plus nous recevons, nous allons crier, oh non, vous vous ingérez. Mais monsieur, nous vous avons
mais
donné.
On dit souvent, l'argent. La main qui donne.
Ça, c'est élémentaire. Je ne termine même pas la phrase. C'est une loi naturelle partout. La main qui donne.
Est au-dessus.
Bon. Celui qui bénit, c'est celui-là qui donne la main, qui met la main sur la tête de la personne. C'est lui qui transfère la bénédiction, met sa main sur la tête de la personne. J'appelle bénédiction la cagnotte, l'argent, et la tête de la personne, c'est la souveraineté. Donc, c'est-à-dire, comme on dit en français élémentaire, ceci explique cela. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'ingérence, par exemple, nous avons organisé les élections de 2011 avec Moulunda sans financement extérieur. Et nous sommes donc décidés comme nous voulions. Mais maintenant, nous sommes.
Et là, c'était la catastrophe.
Maintenant, là, aujourd'hui, nous attendons la cagnotte, les argent. Vous ne donnez pas, donnez. Bon, plus si nous entendons, c'est qu'ils doivent nous. Non, bon, attendez. Avant que nous donnions notre cagnotte, bon, d'abord, cette histoire d'enrôlement. Donc, ils disent comme ils veulent.
D'accord.
Bon, tout ça sont des interventions.
Voilà.
Tout ça sont des ingérences. Mmh. Et nous ne saurons pas y mettre fait tant que nous continuerons à demander. C'est pourquoi nous nous battons, nous, que notre budget, oh mon Dieu, la RDC mérite d'avoir un budget, pas celui lamentable de 5 milliards, 6 milliards. Nous pouvons faire mieux. Et la première chose pour laquelle ce pays doit se battre, c'est lutter contre la corruption et le détournement. La corruption et le détournement, il y a
combien l'argent qui est
le dernier rapport du Conseil spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, c'est 15 milliards par an. Par an, se volatilise entre les mains des détourneurs et des corrompus. Donc, pour dire tout simplement que nous pouvons nous en sortir.
On peut s'en sortir.
Nous pouvons nous en sortir. Ouais. Et nous crierons pendant longtemps Haro à l'ingérence, et tant que nous demanderons, tant que nous signerons des conventions, des accords, nous ne nous en sortirons pas. La seule façon pour nous de s'en sortir, nous assumer par notre budget, nous assumer par notre armée, notre police, donner des moyens conséquents à ces deux branches de la protection de la souveraineté, ça veut dire l'armée et la police, et nous nous en sortirons comme toutes les nations, même les plus petites, s'en sortent pour l'organisation interne qu'il faut, et la RDC est à mesure de le faire. Nous avons dirigé l'Afrique centrale et australe pendant 30 ans, les Zaïre. Nous pouvons donc revenir à notre statut de leader régional en nous en organisant à l'interne.
Bien. Maître Ruffin Loukou, juriste et chercheur et écrivain en droit. Merci.
Je
et bon début de semaine.
Merci et à tous nos auditeurs.